C'est déjà arrivé. Salut et bienvenue à tous dans ce débat d'octet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très 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 casse-gueule et sur lequel on peut disserter pendant des heures, à tel point que certains les classent dans les sujets trolls. Bref, on va parler de l'industrie musicale à l'heure d'Internet. Et c'est pas joyeux joyeux, ce qui drainait 1,3 milliard d'euros en 2000 ne fait plus que 600 et quelques millions cette année. Une paille. C'est une véritable catastrophe pour une industrie pas comme les autres. Alors à qui est due cette crise? Au piratage? Aux majors? Sûrement un peu des deux, mais difficile de savoir. La situation est empêtrée dans une guéguerre entre maisons de disques et internautes, et il y a de la mauvaise foi d'un côté comme de l'autre. L'invité de ce débat d'octet essaye de démêler l'info de l'intox dans cette période de transition économique. C'est le fondateur d'Electronly.info, un regroupement de blogs sur la culture et les médias à l'heure d'Internet. Vous m'arrêtez, hein, si je
Non,
fais
c'est
erreur.
ça.
Il était journaliste à l'événement du jeudi et au Figaro, c'est Emmanuel Torregano. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un livre, Vive la crise du disque, aux éditions Les Carnets de
Ouais, tout
l'Info.
à fait.
Alors, ce livre est basé sur des entretiens avec des grands de l'industrie de la musique. Il y a l'inoubliable Pascal Nègre, il y a Patrick Zelnick, il y a Thierry Chassagne, le président de Warner France, il y a Stéphane Bourdoiseau, celui de Wagram, un label
Ouais.
indépendant. Et il y a aussi Bernard Millet de la
Ouais.
SACEM. Alors, votre livre, très, enfin, c'est un très bon livre, parce que même s'il y a peu de scoop, au final, il permet d'avoir un regard plus objectif sur la situation actuelle de la musique. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on comprend beaucoup mieux la situation. Quand j'ai refermé votre livre hier matin, je me suis dit que la situation était beaucoup moins brumeuse et beaucoup plus limpide dans mon esprit. Alors, le livre est disponible à peu près partout et il coûte 21 euros. C'est cher, je sais, mais je vous jure que c'est un bon investissement. On parlera des majors et enfin du futur et du rôle des nouvelles offres sur Internet dans une troisième partie, mais avant, arrêtons-nous un peu sur une vision plus globale de la situation de la crise du disque. Alors, la première question, c'est qu'au final, beaucoup de gens essayent de se poser la question de savoir cette fameuse crise du disque qui a touché l'industrie de plein fouet. On se demande qui est un peu responsable. Est-ce que c'est les consommateurs, les internautes avec le peer-to-peer? Est-ce que c'est les majors? Est-ce que c'est les deux? Qui pourrait être... Bon, c'est compliqué, c'est difficile de répondre, je suis d'accord, mais qui, à votre avis, serait le principal
D'accord.
responsable de
Alors,
cette
la
crise?
première chose qu'il faut voir dans cette histoire, c'est que si vous regardez le marché de la musique enregistrée, c'est-à-dire la vente de CD, et que en effet les chiffres montrent un effondrement de ces ventes de pratiquement 60% en 7 ans, vous dites, oh mon Dieu, il y a une crise. Mais si vous regardez aussi la façon dont se comporte le marché dématérialisé, c'est-à-dire celui de la vente ou d'écoute de musique, quelle que soit sa forme, là vous vous dites, oh merveilleux, un Eldorado. Vous voyez? C'est-à-dire que quel que soit le point de vue que vous pouvez utiliser, finalement, vous avez des conclusions qui peuvent être diamétralement opposées. Mais si on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a tué le CD, ce qui serait en effet la question légitime par rapport à cette baisse relativement violente et soudaine des ventes, a priori, c'est évidemment une conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la mutation technologique, elle est évidente. On ne peut pas empêcher les gens d'utiliser des canaux de distribution, d'avoir des nouveaux usages de consommation de la musique. J'entends nouveaux usages, le fait de mettre entièrement sa discothèque sur un disque dur, de le partager avec les autres, de l'emporter avec soi dans le métro. Bref, il y a des nouveaux usages qui sont arrivés avec la dématérialisation, avec le fichier à la place du CD. Et ça, se dire qu'on puisse les arrêter, et se dire que c'est la cause finalement de la crise du disque et qu'il faut à ce moment-là se poser en une sorte de digue face à la marée qui monte ou face à la vague qui arrive, c'est une énorme erreur. Ça n'existe pas. Vous allez être balayé quoi qu'il en soit. Donc la mutation technologique est évidemment une des causes. La deuxième cause, c'est que face à cette mutation technologique, les maisons de disques ont eu un discours et une action en grande partie frileuse, voire paranoïaque. Donc elles se sont par exemple concentrées, Sony et BMG ont décidé de fusionner. Or, malheureusement, dans une entreprise, 1 plus 1 ne font pas 2. La plupart plupart du temps, 1 plus 1, ça fait 1,5. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est-à-dire que deux maisons de disques qui, à elles deux, au niveau mondial, devaient faire 30% de part de marché, une fois fusionnées au bout d'un an, elles ont fait 20%. Donc ça faisait déjà 10% du marché qui était parti. Et puis derrière, il y a eu en effet le fait que les gens n'ont plus acheté quasiment de compilations et d'albums dits back catalogue, c'est-à-dire tous les artistes qui n'ont pas sorti des trucs depuis 10 ans, mais qui continuent à être présents dans les bacs avec des best-of, enfin des choses comme ça. Et ça, tous ces albums-là, bah, ils se sont arrêtés parce que les gens ont ripé en fait les CD. Donc, à partir du moment où vous ripez les CD, que vous les échangez sur des réseaux peer-to-peer, forcément, vous en avez moins besoin.
Et
Donc là, c'est une vision.
pourquoi plus le bad
Pardon?
catalogue que les albums originaux?
Que les nouveautés, vous voulez dire?
Oui.
Bah non, non, le marché de la nouveauté a continué. Enfin, il s'est réduit, évidemment, hein.
Mais
C'est un
pourquoi est-ce
peu.
qu'on ripait plus les best-of, les compilations, etc., que les nouveautés?
Non, c'est pas. On les ripait plus parce qu'on n'en avait plus besoin. À partir du moment où vous aviez toutes ces choses-là existaient sur le réseau, finalement, les gens les achetaient moins. Alors qu'une nouveauté, ça arrive. Il y a encore un réflexe d'achat qui était sensiblement, qui existait. Voilà. Donc la différence, elle est là. C'est-à-dire l'acte d'achat ne se faisait plus sur le back catalogue et la compilation, parce que les gens se les faisaient. Alors que quand vous sortez un album, vous avez encore une force promotionnelle, vous avez encore de quoi les amener à l'acheter. Voilà, la différence, elle est essentiellement là. Alors que quelqu'un qui sortait un best-of, finalement, vous voyez son disque ne jamais être acheté, parce que bah, les gens l'avaient déjà rippé, s'étaient fait fabriquer leur propre best-of. C'est juste une question de comportement. Et puis à côté de ça, la quatrième chose, c'est qu'en effet, le peer-to-peer, pour une grande partie, enfin pour une partie des gens, a remplacé en effet l'acte d'achat. Clairement. Donc à partir de là, il y a eu. Les chiffres sont très très difficiles à obtenir, mais on estime que 20 ou 30%, encore une fois, du marché du CD s'est effondré petit à petit parce que les gens ont trouvé gratuitement des fichiers qui étaient des clones de ce qu'on obtenait par le CD sur les réseaux, tout simplement. Donc voilà, c'est plus une conjonction de facteurs. Moi, j'aurais du mal à dire il y a un coupable. C'est ce qu'a fait l'industrie de la musique, essentiellement les majors. Elles ont expliqué que le piratage était le grand coupable. Moi, j'ai du mal à le dire parce que 50% en 7 ans, c'est pas un facteur, c'est une conjonction qui
Donc
l'explique.
c'est le peer-to-peer, l'étincelle, et ensuite c'est les maisons de disques qui ont mal géré la situation.
L'étincelle, c'est Napster. Le jour où Napster est sorti et est devenu un phénomène de masse qui a été très très rapide, en quelques mois ils ont eu 50 millions d'abonnés. Ça a été on a tendance à l'oublier maintenant avec des phénomènes comme Facebook ou Twitter, mais Napster a eu un rythme d'adoption par les internautes absolument hallucinant. Et à partir du moment où Napster est arrivé, les maisons de disques ont en effet décidé que la bonne réponse à ça, c'était la répression. Ça, c'était une erreur évidente.
Alors, c'est en particulier Bernard Millet de la SACEM qui disait ça, qui disait que le haut débit était une des causes du piratage. En quoi est-ce que la montée de la DSL et du haut débit en France aurait pu augmenter le piratage?
Oh, une question de commodité. C'est plus facile de télécharger de la musique avec une connexion. H24 et avec un bon débit,
Mais
complètement.
les gens, est-ce qu'ils étaient conscients quand ils... Enfin, est-ce que la plupart des gens, quand ils achetaient leur abonnement au débit, ils disaient j'achète du haut débit pour pouvoir plus télécharger illégalement?
On ne sait, il n'y a pas eu d'études faites là-dessus. En revanche, enfin, ou en tout cas, j'en ai pas eu à ma connaissance. En revanche, on sait que les FAI ont fait une grande partie de leur promotion à l'époque en expliquant que on pouvait, grâce à leurs offres télécharger gratuitement de la musique. Ouais, ça c'est fait.
Il n'y a pas eu
Maintenant,
d'action en
est-ce qu'il
justice
y a.
depuis de la part des maisons de disques, parce que ça c'est complètement illégal de faire de la promo sur ça.
Non, c'était pas illégal, mais il y a eu en effet des plaintes, et d'ailleurs, la plupart des campagnes publicitaires se sont arrêtées. Non, il y a eu une charte qui a été signée en 2005 ou 2006, je crois, entre les FAI et les ayants droit en général. Qui disait que bah voilà, fallait bien se tenir maintenant et arrêter de faire une promotion sur un contenu qui ne leur appartenait pas. Mais vous savez, il y a un truc qui s'appelle la neutralité du net. Et les FAI, bah, c'est comme la Poste, ils ne regardent pas ce qu'il y a dans. C'est ce que dit d'ailleurs Millier, c'est la jurisprudence postier, on ne regarde pas ce qu'il y a dans la lettre. Voilà. Donc bah, on peut très bien faire de la pub, la Poste peut faire de la pub en disant envoyez vos lettres d'amour, toujours la même chose, quoi.
Ça rebug, hein. Revoyez là juste, ça refait le même truc là, j'ai l'impression que de vous entendre de très loin, que ça lague un peu.
Ah bon? Moi, pour moi, le son est bon là.
Bon.
Vous m'entendez bien là ou pas?
Oui, je vous entends bien là.
Bon, d'accord.
Alors, aujourd'hui, donc on est en période de loi de PI, de loi de répression. Ces ripostes, ces solutions de riposte graduée qui pour l'instant, enfin qui sont en train d'être adoptées à l'international, arrivent assez tard, je trouve, puisque c'est 10 ans après le début de la crise du disque que les premières lois de répression, que les premières lois de répression arrivent. Si des mesures comme Hadopi, c'est-à-dire des lois de répression, des lois qui contrôleraient le réseau pour voir s'il y a des échanges faits sur le peer-to-peer, si ce genre de loi était arrivé plus tôt, est-ce qu'on serait dans la même situation qu'aujourd'hui?
Tout à fait. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les États-Unis ont très tôt adopté une loi qui était assez dure sur le numérique, qui n'était pas une loi à la riposte graduée, hein, pas du tout. C'était une loi qui était assez simple, qui disait si vous, ce qui est une loi de la contrefaçon, sur la contrefaçon, si vous téléchargez illégalement des fichiers, on vous attaque et vous êtes puni très très sévèrement. Il y a eu pas mal de cas et d'exemples aux États-Unis,
Non, mais il n'y avait pas dans
notamment.
la pratique, c'était très rare de. Alors qu'avec Adobe, ce sera beaucoup plus automatisé.
Ouais, mais il n'empêche qu'aux États-Unis, vous avez eu beaucoup de cas, hein. La RIAA, elle a attaqué vachement, elle a gagné pas mal d'argent, elle a eu aussi des scandales, mais non, non, la loi était forte, hein. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de différence. Maintenant, est-ce que Hadopi, qui est une loi de masse, va changer quelque chose? Non, il y a peu de chances. Le problème du marché digital, c'est que c'est un marché d'équipement et que jusqu'à présent, il faut que je vous explique les choses assez clairement. Et pourquoi est-ce que Adopi est un peu à côté de la plaque? C'est que le marché du CD a grossi avec l'équipement des personnes en chaîne Hi-Fi. Plus on achetait une chaîne Hi-Fi, c'était le cadeau qu'il fallait avoir quand vous aviez 15 ans, 16 ans, à l'adolescence. Et à ce moment-là, vous deveniez, au fur et à mesure, consommateur de CD. Même eu à une époque glorieuse des années fin des années 90, il y avait énormément d'appareils qui permettaient de copier et de cloner les CD, et pour autant le marché du CD ne s'est jamais aussi bien porté. Et pourtant aussi, les maisons de disques faisaient une guerre impitoyable à ce qu'ils appelaient le piratage industriel des CD. Et pourtant le marché se portait très bien. Pourquoi? Parce que les gens étaient très largement équipés en lecteurs de CD. Donc il y avait un marché. Un potentiel enfin, impressionnant de gens qui pouvaient acheter du CD et l'écouter. Le marché dématérialisé, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on veut que ce marché compense un jour les pertes sur le CD, il faudra en effet qu'on ait un équipement fort d'appareils permettant de consommer de la musique sur Internet légalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, on a en effet un problème d'équipement à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens qui ont un ordinateur ou qui ont un lecteur MP3 pour écouter de la musique, enfin un ordinateur, ils sont très nombreux, mais un lecteur MP3 notamment, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et il faut agrandir ce potentiel d'équipement pour qu'au fur et à mesure, les gens aient besoin d'acheter de la musique légale. Voilà, le vrai gap, il est là. C'est un marché d'équipement, c'est un marché d'offres, ce n'est pas un marché de répression. Et ce que j'appelle moi le marketing coercitif des maisons de disques et des ayants droit en général, qui dit achetez sinon on vous fout en prison, grosso modo c'est ça l'équation, elle ne rentre pas et elle ne résout absolument pas ce problème de l'équipement. Voilà. C'est pour ça que finalement elle n'aura pas l'effet escompté. Mais
Donc
pourtant,
Adopi n'augmentera pas les ventes.
alors là-dessus je vous parais très paradoxal. Et je pense qu'Hadopi arrive à un moment où ce fameux marché de la musique légale est en train réellement de démarrer. C'est-à-dire qu'il va y avoir là encore un effet assez bizarre, c'est qu'Hadopi va être présent, que les pros Hadopi vont pouvoir dire: Ah, regardez, ça marche, c'est génial, on a fait 50%, 60%, 80% de progression sur le marché dématérialisé. Or, ça n'a rien à voir avec Hadopi. Parce que le marché est en train de décoller. Pourquoi le marché est en train de décoller? Parce que le marché de la musique dématérialisée, aujourd'hui, c'est un seul acteur quasiment, c'est Apple et sa plateforme iTunes qui détient entre 70 et 80% selon les marchés. En France, je crois qu'ils sont à 73%. Aux États-Unis, ils sont à plus de 85%. Et en fait, ces gens-là ont mis en place un écosystème entre iPod, iPhone et iTunes. Et plus ils vendent d'iPod et d'iPhone, et plus ils développent le marché légal.
On en reparlera de ça dans la deuxième partie. Est-ce que, à votre avis, la bonne solution que doivent adopter les majors, c'est de tuer le peer-to-peer? Enfin, je m'explique. Aujourd'hui, je vais faire un amalgame un peu foireux, mais c'est un peu dans l'idée. C'est qu'on pourrait comparer le téléchargement illégal aux discriminations faites aux homosexuels. Parce que pour les discriminations faites aux homosexuels, comment résoudre ce problème? Il y a deux manières. Ou on fait voter une loi, où on fait changer les mentalités, avec des campagnes de prévention ou d'autres moyens. Pour le piratage, j'ai l'impression que c'est un peu la même situation. On a le choix ou entre faire une loi répressive pour essayer de faire baisser le peer-to-peer, ou de faire changer les mentalités. Est-ce qu'aujourd'hui, les majors ne sont pas dans la mauvaise direction en allant plus dans la répression que dans le changement de mentalité? Ou est-ce qu'il faut qu'ils choisissent de manier les deux outils? Ou est-ce qu'il faut qu'ils abandonnent la répression et plus essayer de faire changer les mentalités plus que de faire voter des lois répressives?
Très franchement, il s'agit de faire acheter les gens. Il s'agit de leur proposer quelque chose qu'ils aiment suffisamment pour les acheter. Ça n'a pas grand-chose à voir avec de la mentalité, et ça n'a pas grand-chose à voir non plus avec le rapport à la discrimination. Il ne s'agit pas là de lutter contre des idées, il s'agit de donner envie. C'est très différent. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est que, comme vous dites, une grande partie des ayants droit, donc des labels, des majors, des maisons de disques, sont rentrés en guerre contre les internautes, c'est-à-dire sont rentrés en guerre contre leurs clients. Et ça, c'est fondamentalement une erreur. Et la deuxième erreur qu'ils ont faite, et qui est encore plus importante, c'est qu'ils se sont focalisés sur le peer-to-peer. Or, et pourquoi ils se sont focalisés sur le peer-to-peer? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le marché de la musique est un marché, même quand il était au maximum, c'est-à-dire dans les années 2000, enfin tout début des années 2000, fin des années 90 plutôt, même à cette époque-là, il ne représentait pas un chiffre d'affaires considérable. Il représentait grosso modo 1 milliard d'euros hors taxes, hein, c'est-à-dire pas si vous enlevez la marge et la TVA des distributeurs. Et ce milliard d'euros, finalement, c'est pas énorme. Et quand les peer-to-peeristes sont apparus sur Internet, ils n'ont jamais représenté une masse considérable de personnes. C'est un truc. Quand vous parliez au tout départ pour présenter le sujet de la mauvaise foi qui est répartie entre les deux camps, c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise foi des pro-peer-to-peer et il y a une mauvaise foi des anti-peer-to-peer. Et les deux se sont entendus sur un chiffre, ou disons sur une concentration, une proportion de peer-to-peeristes sur Internet qui serait énorme. Ce qui est faux. C'est-à-dire que toutes les études montrent que les gens qui font du peer-to-peer, qui en ont fait au moins une fois, ça représente entre 18 et 20% des personnes connectées. C'est-à-dire, c'est une minorité. C'est une minorité agissante. Sauf qu'une minorité de l'Internet, c'est-à-dire une minorité de 18 millions de personnes ou de 18 millions de foyers connectés, ça a évidemment un impact important sur un marché d'un milliard d'euros, comme le marché du disque. Voilà, ça a un impact. Mais ça n'a pas un impact si important que ça. C'est simplement que le marché est relativement faible. C'est pour ça qu'il est impacté. Donc aujourd'hui, ouais, il y a un problème vis-à-vis de la conception ou l'idée qu'on peut avoir de comment faire progresser ce marché. Et notamment, l'un des problèmes, c'est de croire que le peer-to-peer est l'ennemi juré. C'est complètement idiot. Mais je veux même vous dire un truc qui est assez étonnant. C'est qu'entre quelqu'un qui achète de la musique et quelqu'un qui fait du peer-to-peer, le réflexe est le même. Et ce réflexe, et c'est celui que devrait continuer d'entretenir, voire animer les maisons de disques et les distributeurs, c'est celui de posséder la musique. Parce que le vrai danger sur le marché de la musique aujourd'hui, enfin, le vrai danger, dans l'équation, la vraie valeur X inconnue, c'est celle de la diffusion gratuite, c'est-à-dire le streaming. Et aujourd'hui, streamer de la musique sur Internet, ce qui ne rapporte alors là strictement rien aux artistes, ou trois fois rien aux artistes, c'est devenu là un sport, alors là réellement national. on a les chiffres concernant les audiences des sites de streaming de musique, que ce soit Dailymotion, YouTube, Deezer, pour être spécialisé, c'est beaucoup beaucoup plus important que tout ce qui est peer-to-peer, mais vraiment beaucoup plus important. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Le peer-to-peer, lui, en revanche, et certaines études l'ont démontré, et malheureusement les labels ne l'acceptent pas, eh bien il y a une vraie appétence des gens qui pratiquent le peer-to-peer pour acheter de la musique. Voilà, parce que c'est le même
Donc le
réflexe, c'est celui
peer-to-peer
qui...
et l'achat de musique n'est pas incompatible.
Non, parce que dans les deux cas, je vous dis, c'est le même réflexe qui est à la base, c'est celui de vouloir posséder l'œuvre. C'est un truc très étrange, mais les gens, ils veulent continuer à posséder. Le peer-to-peer, c'est pas un voleur, c'est quelqu'un qui veut la musique. Simplement, il a trouvé un moyen différent pour l'acquérir. Bon, d'ailleurs, rejoint une espèce de politisation libertaire de l'Internet pour les plus endurcis. Mais parce que c'est une petite proportion de l'Internet, c'est 15-20%. Alors, je ne dis pas que ces 15-20%, il faut les laisser comme tels. J'en sais rien, d'ailleurs, je n'ai pas de. Sur cette question-là, c'est une question d'intérêt général, elle dépasse totalement mon expertise, mais c'est relativement faible. Et de l'autre côté, donc quand je vous dis que les maisons stigmatisent ces gens-là en disant qu'ils sont très nombreux, ils sont en train de casser notre marché, de l'autre côté, les peer-to-peeristes disent oui, c'est vrai, nous sommes très très nombreux, et c'est pour ça que il faut arrêter tout de suite, vous n'avez pas besoin de continuer à tenter de lancer des offres légales, ça ne marchera jamais. Donc dans les deux cas, il y a de la mauvaise foi. Parce qu'en effet, c'est faux. Les offres légales, elles marchent. En tout cas, il y en a une qui marche très bien. Et les peer-to-peeristes ne sont pas si nombreux que ça. Donc voilà, là, il y a une espèce de double mauvaise foi en effet.
Alors, je voulais vous poser une petite question un peu technique, puisque tout au long du livre, j'ai vu des interventions de Bernard Millet, le président de la SACEM, mais il y a
Ouais.
beaucoup de gens, et moi j'en faisais partie, qui ne savent pas vraiment le rôle de la SACEM. Quel est le fait, enfin, qu'est-ce qu'elle apporte à l'industrie musicale par rapport, par exemple, aux majors?
Oula, ça n'a rien à voir. La SACEM, son métier, c'est récolter les droits pour les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors des contrats signés entre les artistes et les maisons de disques. Par exemple, un truc très con, vous allez dans une discothèque, vous entendez un morceau qui passe, et eh bien ce morceau, puisque vous l'avez écouté, vous, dans un lieu public, ce lieu public reverse une partie de la somme, c'est-à-dire une partie de son chiffre d'affaires, à la SACEM, au nom de ses droits. Parce que en droit français, et dans beaucoup de pays européens aussi, les droits d'auteur sont des droits incessibles et exclusifs. Autrement dit, on ne peut pas les donner à quelqu'un ou on ne peut pas ne pas être rémunéré en partie pour ses droits, à moins que l'auteur décide de ne pas être rémunéré. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ne sont pas inscrits à la SACEM et qui ne sont, c'est leur liberté, ils ne sont jamais rémunérés ou alors qui se débrouillent par d'autres biais pour être rémunérés sur la diffusion de leurs œuvres. Voilà, ça sert à ça la SACEM.
Quand par exemple je vois la répartition des profits de vente de CD par exemple, je vois la SACEM et les
Ouais.
maisons de disques. Les maisons de disques, le bénéfice qu'elles font, elles en reversent pas une petite partie à l'artiste ou c'est la SACEM qui fait ça?
Si, c'est ce que je vous dis, il y a des contrats qui existent, qui sont ce qu'on appelle les royalties entre la maison de disques et un artiste. Mais en dehors de ça, c'est-à-dire en dehors de la vente de CD, pour tout ce qui est autre droit, c'est la SACEM.
Donc l'artiste
C'est
récupère
la
via les deux
SACEM.
biais.
Ouais, tout à fait. Enfin, ça dépend. S'il est compositeur, oui. S'il est juste interprète, non. Par exemple, Johnny Hallyday, qui n'a jamais rien composé de sa vie, ne touche que sur ce qu'il reçoit de la maison de
De
disques
la
avec
maison de
laquelle
disques.
il a signé. Voilà.
D'accord, donc bah déjà j'en sais un peu plus, donc c'est déjà pas mal.
Par exemple, sur un des auteurs-compositeurs les plus rémunérés depuis ces 20 dernières années, c'est Jean-Jacques Goldman.
Ouais, parce qu'il a beaucoup composé.
Normal. Énorme compositeur, voilà.
Reparlons un peu d'Hadopi. Est-ce que Hadopi, c'est pas la loi contre-temps dans le sens où il aurait mieux valu lancer des offres attractives pour le consommateur avant de lancer une loi répressive? Est-ce que Hadopi n'arrive pas trop tôt?
Alors, d'abord, c'est pas à l'État de lancer une loi attractive. Je veux dire par là que c'est pas à l'État, à moins de mettre en place, ce que d'ailleurs dessine un peu la mission Zénith ces derniers temps, des incitatifs à la consommation, défiscalisation,
Mais c'est les
qui
majors qui
vont.
sont à l'origine de cette loi, quand même.
Voilà, c'est un marché, on est dans une économie de marché jusqu'à présent, on n'est pas dans une économie étatisée. La musique n'a pas à être. Le marché de la musique n'a pas à être dynamisé par l'État. Il doit être fait par les acteurs qui s'en occupent, c'est-à-dire les distributeurs et les maisons de disques et les artistes et les diffuseurs. Par exemple, là-dedans, vous avez une chaîne Total, vous avez les médias avec les chaînes de télévision, les radios, puis vous avez les labels, et puis vous avez les distributeurs, la Fnac, Virgin, Leclerc, n'importe qui, et puis les artistes. Voilà. Ça devrait être ces quatre maillons-là qui, au départ, auraient dû en effet prendre le taureau par les cornes et continuer à faire la promotion de leur musique et de leurs œuvres pour éviter l'effondrement du marché, ou en tout cas pour que cet effondrement se traduise surtout par une mutation vers le dématérialisé. Parce qu'aujourd'hui, la grande question, ce n'est pas celle de est-ce qu'on va encore se prendre moins 10% l'année prochaine, mais c'est de se dire il faut absolument que le marché dématérialisé viennent compenser et grossir très largement les revenus de la musique. L'objectif aujourd'hui, il est là.
Est-ce que on parle beaucoup de la responsabilité des majors dans la crise du disque, mais est-ce qu'il y a vraiment une responsabilité des consommateurs dans cette crise?
Alors ça pose le problème de l'enfant gâté. C'est-à-dire, est-ce que le consommateur doit se comporter essentiellement comme un enfant gâté? Ou est-ce qu'à un moment, il peut en effet avoir une sorte de responsabilité, une sorte d'éthique du consommateur qui va se dire, eh ben moi, parce que je veux soutenir la musique, parce que j'aime la musique, parce que j'ai compris que l'équation de la musique, c'est quelqu'un qui achète et qui reverse à un ayant droit, dans ces cas-là, je vais acheter. Voilà. Est-ce qu'il y a en effet cette pratique, ou est-ce qu'on est dans un schéma simple d'enfant gâté qui considère que s'il peut l'avoir gratuitement ailleurs, et ben il l'achètera gratuitement, il le
Bah c'est pour ça que je parlais de
récupérera.
mentalité, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer cette mentalité-là pour que le consommateur ait encore le réflexe de payer? Et de nouveau le
Et
réflexe de payer, je veux dire.
je vous dis, c'est-à-dire, soit on pose en effet la question d'un point de vue moral, c'est celle-là, soit on estime, encore une fois, et je ne suis pas un libéral, hein, c'est pas le problème, enfin, je dirais économiquement, je ne suis pas un libéral, mais c'est un marché d'offres, c'est un marché de promotion, c'était voilà, on est dans un rapport avec le consommateur, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut pas le travestir, on est dans un rapport de consentement mutuel sur un prix, sur une valeur, on n'est pas dans autre chose. Vous ne pouvez pas faire appel à des grandes idées pour vendre de la musique, c'est absurde.
Bah, c'est un peu ce qu'essayent de faire les majors en ce moment avec la loi Hadopi, quand même.
Non, avec la loi Hadopi, ils disent il n'y a pas d'autre solution, il faut les mettre en tôle. Non, il y a la question, c'est celle du consentement sur un prix, sur une valeur. C'est-à-dire, voilà, ma musique, c'est celle-là, elle te plaît suffisamment pour que, dans une sorte de consentement inconscient, parce que personne ne va signer un contrat, hein, tu sois d'accord pour l'acheter. Et le deuxième maillon de cette histoire, enfin le deuxième volet, c'est, et si en plus tu es d'accord, il faut que tu aies le moyen le plus simple et que tu sois équipé, parce que malheureusement, la dématérialisation, ce n'est pas la fin du matériel. Juste de la mettre sur un autre plan, il faut que tu sois équipé pour pouvoir en jouir, et j'insiste sur ce mot, pour pouvoir en jouir comme il le faut. Et là, on commence à obtenir les fondamentaux d'un marché dématérialisé sain.
Au
Bonne offre,
final,
un consentement et un équipement.
le principal problème de cette crise, c'est pas qu'elle est extrêmement complexe, parce que même après avoir lu beaucoup, pas que votre livre, j'ai lu aussi beaucoup de choses sur Internet par exemple, je me suis aperçu quand même qu'il y a plein de problèmes différents, plein de possibilités de réponses. Est-ce que le problème de cette crise, c'est que c'est extrêmement brumeux?
Oui, c'est extrêmement brumeux parce qu'on est encore dedans. Moi, je finis le bouquin sans être, comment dirais-je, j'ai pas voulu jouer au futurologue. Je me suis pas dit, tiens, moi, Emmanuel Torrigano, ça fait 10 ans que je les regarde, tous ces cons, je vais leur dire ce qu'il faut faire et je vais leur dire ce que va être l'avenir. Vous voyez? Et j'ai refusé de jouer à ça. Parce que justement, comme vous dites, il y a en effet une composante complexe, il y a une composante aléatoire, incertitude, qui est très très forte. Mais pourtant, on sait aujourd'hui, parce que si vous voulez, l'un des blocages qu'on pouvait avoir pour comprendre cette crise, c'était de se dire, oulala, avec Internet, c'est le dématérialisé, c'est la fin du bien rival, c'est la fin de l'économie du je te donne quelque chose, je l'ai plus, c'est l'arrivée de celle du don total, c'est-à-dire tout ce que je donne, je le conserve toujours, ce qui est un truc qui n'existait pas avant dans l'équipement matériel, dans le marché physique. Donc on s'est dit, les paradigmes changent, donc je ne comprends plus rien. Et c'est totalement faux. C'est-à-dire, le marché dématérialisé de la musique est un marché comme les autres. Ça n'a rien à voir avec une sorte de fantasme qu'on pourrait avoir sur une nouvelle économie qui se baserait sur des paradigmes totalement nouveaux. C'est totalement faux. Et Apple est en train très bien, et je me répète parce que le point important, c'est eux. Et Apple est très bien en train de le prouver. Il n'y a pas de grande nouveauté, il n'y a pas quelque chose comme ça qui soit une espèce de fantasme d'une économie régénéré par le réseau, c'est faux. Les gens sur Internet qui achètent de la musique ont un comportement d'acheteur à la Fnac. C'est exactement le même. Ils vont quelque part, ils regardent quelque chose, ça leur plaît, ils le téléchargent, ils l'obtiennent. Voire même, ce qui était avant des inconvénients du marché physique, le fait de se déplacer, de ne pas trouver forcément la référence qu'on voulait, le côté usure du CD, tout ça est disparu. C'est-à-dire qu'on est même dans un marché qui, par rapport à celui du physique, on a gommé les défauts sans en rajouter finalement une complexité qui aujourd'hui, je vous dis, est illusoire. Donc, beaucoup de gens ont pensé qu'on était dans quelque chose de brumeux, dans lequel il fallait changer, trouver des nouveaux modèles et tout ça. Et ça, c'est faux. En revanche, les composantes primaires d'une croissance et d'un marché sain de la musique ne sont pas encore réalisées. Et ça, c'est l'incertitude.
On parlera justement des nouvelles offres qui sont mises en place sur Internet dans la troisième partie. En attendant, on va passer à la deuxième partie qui, elle, va être consacrée aux majors. Et entre ces deux parties, on va mettre un peu de musique. Musique libre qui vient du site Jamendo. Si je ne me trompe pas, je crois que vous avez traité de... Enfin, vous avez parlé du cas Jamendo en quelques lignes dans votre livre.
Ouais, tout à fait. Que je vous ai dit. Oui, non, j'en ai parlé, non, je disais juste qu'ils étaient, ils avaient changé plusieurs fois de business model, d'idée, et que ça montrait bien que Internet pour la musique n'est pas un territoire si nouveau que ça. Voilà, ce qui s'y passe n'est pas si extraordinaire. On est finalement sur des fondamentaux qui sont celui du commerce, hein, pour dire les choses avec un peu de désenchantement.
Donc, rien n'a changé, quoi.
Non, rien n'a changé. Beaucoup de choses ont changé dans la promotion, dans la façon de communiquer sur les artistes. Mais relativement peu de choses a changé sur le fait de les vendre. Les vendre et de les consommer. On est toujours dans une consommation répétitive. La musique, c'est quelque chose que j'écoute et que je lessive. J'écoute 10, 15, 20 fois, 30 fois, ce qui n'a rien à voir avec la vidéo. Et donc il faut que je l'ai là tout le temps, facilement, à disposition. Et deuxièmement, par contre, ce qui change réellement, c'est la promotion. Là, on est dans un univers totalement nouveau, c'est celui du Web 2, c'est celui de ce qu'on appelle la recommandation interpersonnelle, c'est-à-dire c'est le réseau d'amis ou le réseau de connaissances, de connexions que vous avez sur Internet, qui peut vous amener à découvrir de la musique ou, par effet dynamique de groupe, à vouloir écouter telle ou telle chose. Là, on est en effet dans une nouvelle dimension. Mais la vente, la commercialisation et l'écoute de la musique n'ont pas énormément changé.
Ok, No Way de VS, on se retrouve juste après.
Le débat d'Octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale. Thank you. my friend.